Chapitre 15. Avril-mai 1968. John Pilkington avait envoyé l'article à Nature le 3 avril et avait reçu l'acceptation sans révision une semaine plus tard. Il était paru dans le volume 218 du 13 avril. Ils y détaillaient toutes les caractéristiques des quatre premiers pulsars, en ajoutant des nouvelles données sur CP1919. Finalement, le tout premier pulsar était celui qui avait la période la plus longue. CP1133 avait une période de 1,188 secondes, CP0834 1,273 secondes, et CP0950 était sans doute le plus intrigant, car sa période d'oscillation était vraiment très courte. Elle ne faisait que 0,253 secondes. Dans le même numéro, trois autres articles étaient consacrés à ces nouvelles sources radio pulsées. Il était tout d'abord précédé par un article théorique de Fred Hoyle et Giant Narlikar, qui proposait une explication pour ces sources, qui serait une étoile à neutrons subissant des oscillations tout juste après sa naissance au cours d'une supernova. Puis c'était un article de deux radioastronomes de l'observatoire Jodrell Bank qui avaient mesuré la polarisation des ondes radio des quatre nouvelles sources dont leur avait parlé John Pilkington peu de temps avant de se lancer dans la rédaction de son article. Ils se doutaient qu'ils allaient tout faire pour essayer de détecter les sources avec le radiotélescope de Lovell, mais ils savaient aussi qu'ils ne pourraient jamais publier avant lui. Au pire, ce serait en même temps. C'était le cas. Et puis, toujours dans ce même numéro de Nature, l'article de John Pilkington, dont Jocelyn était la troisième auteure derrière Anthony Hewish, il y avait un quatrième petit article qui avait été rédigé par deux autres membres du groupe de Cavendish. Ils s'étaient focalisés sur la source la plus intrigante des quatre, CP0950, pour en déterminer la position la plus précise possible, grâce au One Mile Telescope, dans l'objectif d'essayer de trouver ensuite une éventuelle contrepartie visible dans d'autres longueurs d'onde. Il fournissait une position beaucoup plus précise que celle de Pilkington, mais il montrait surtout qu'il n'existait absolument rien à cette position dans d'autres longueurs d'onde que les ondes radio. Anthony Hewish et John Pilkington avaient été invités à Paris pour présenter la découverte des nouvelles sources radio devant les spécialistes du domaine au Collège de France. La conférence était organisée par le fameux astronome français Jean-Claude Péquer, que connaissait Anthony Hewish. Il tenait la chaire d'astrophysique théorique de la célèbre institution française depuis maintenant 4 ans, en plus de diriger l'observatoire de Côte d'Azur à Nice, dans le sud de la France. Il avait été mis au courant de la nouvelle série d'articles par son ami Fred Hoyle. Elle était prévue le vendredi 10 mai en début d'après-midi. Quand Hoyle avait proposé qu'il fasse cette conférence en France, Hewish et Pilkington avaient sauté sur l'occasion, trop heureux d'aller parler de la découverte en dehors de leur île. Mais Fred Hoyle avait aussitôt dit à Hewish qu'il voulait lui aussi une conférence, le plus vite possible, à l'Institute of Theoretical Astronomy, dès leur retour du continent. Il avait déjà réservé la date du lundi 20 mai. Hewish avait volontiers accepté la demande de Fred Hoyle, à qui on ne pouvait rien refuser. La parution du numéro de Nature du 13 avril fit beaucoup de bruit dans la communauté astrophysique, peut-être plus encore que n'en avait fait l'article de Martin Schmidt 5 ans plus tôt dans The Astrophysical Journal. Il existait bien une nouvelle population de sources radio qui se singularisait par une pulsation qui pouvait être différente d'un spécimen à l'autre. Des pulsars après les quasars. Et on tâtonnait encore pour comprendre quels objets pouvaient en être à l'origine. L'explication la plus pertinente semblait faire intervenir des étoiles à neutrons. mais certains spécialistes commençaient à mettre en doute cette explication, arguant du fait que les oscillations radiales des étoiles à neutrons devaient avoir des périodes plus courtes, car leur densité devait être plus grande encore que ce que l'on pensait généralement. John Pilkington et Anthony Hewish avaient rassemblé un certain nombre d'articles théoriques pour pouvoir argumenter face à certains contradicteurs qu'ils ne manqueraient pas de rencontrer à Paris. Ils le savaient. Ils avaient acheté des billets pour le Night Ferry, qui reliait directement Victoria Station à Paris Nord, en prenant le ferry à Douvres. C'était un train de nuit. Il partait de Victoria à 21h, embarquait à Douvres à 22h42, très exactement, quand le train et le bateau étaient à l'heure, puis la traversée durait presque toute la nuit. On devait arriver à Dunkerque sur les coups de 5h30. Le train était rapidement extrait du bateau, puis filé lentement vers la capitale française, le petit déjeuner étant servi en attendant d'arriver à Paris aux alentours de 9h. Hewish n'arrivait pas à dormir. La houle faisait tanguer tout le contenu du bateau, wagon compris. Il repensait à l'explication de Fred Hoyle, qui avait été publiée dans le même numéro de Nature que celui des quatre pulsars. Il l'avait emporté avec lui et le relisait. Hoyle et Narlikar mentionnaient l'article de Metzer et Thorne que Jocelyn avait déniché et qui disait que les naines blanches ne pouvaient pas osciller à moins de 8 secondes de période. Mais juste après, il citait un très récent article du même Thorne qui n'était pas encore publié au moment où Hoyle écrivait, mais dont il avait dû avoir une copie. Il était mentionné « sous presse » dans The Astrophysical Journal, selon la référence, mais était sorti depuis. Et dans cette étude théorique, le physicien américain avait refait des calculs et montrait visiblement que les naines blanches pouvaient en fait osciller radialement jusqu'à une période de 3 secondes, et que des fréquences d'harmoniques pouvaient descendre jusqu'à 0,2 secondes. Mais Hoyle notait que la forme des pulses, leur longueur et leur répartition dans le cycle de répétition posaient d'autres problèmes. Et il proposait en fait deux solutions. La première était effectivement une oscillation du cœur d'une étoile massive qui venait d'exploser pour produire une supernova. Mais le cœur ne subissait pas d'effondrement jusqu'à une singularité gravitationnelle. Il oscillait entre le rayon typique d'une naine blanche et un rayon plus petit qui correspondait à la compression maximale, celle d'une étoile à neutrons. Sa deuxième solution était fondée sur la théorie des naines blanches, puisqu'elle voyait une naine blanche survivre après la supernova, l'explosion ayant eu lieu à sa surface. Il faisait la remarque que la durée théorique d'un effondrement gravitationnel était de 0,66 secondes, et que la durée typique d'une oscillation serait alors d'environ le double, soit 1,33 secondes, et cela pouvait bien correspondre avec les périodes qui avaient été observées pour CP1919, CP0834 et CP1133, qui étaient vraiment très proches de 1,33 secondes, surtout CP1919. Il y avait bien les 0,25 secondes de CP0950. Mais Hoyle évoquait aussi la possibilité d'un effet de perte d'énergie par une émission de neutrinos qui conduirait à une période d'oscillation plus petite. John Pilkington, qui partageait le même compartiment, ne dormait pas non plus. Il lisait un journal d'information à l'aide de sa liseuse, assis sur son lit. Hewish s'adressa à lui. Je crois bien que Jocelyn nous a entraînés sur une fausse piste avec son histoire d'étoiles à neutrons. Plus je relis le papier de Hoyle, et plus je me dis... Cette idée de naine blanche, ça ne tient que sur un seul papier, hein. Celui de Thorne, finalement, non? Oui, c'est sûr. Hoyle se base uniquement sur ça. Tu l'as pris, au fait? Oui, je l'ai. On a eu de la chance d'avoir reçu The Astrophysical Journal avant de partir. Je pensais justement le lire dans le train. Rien n'empêche de garder les deux hypothèses pour l'instant, tant qu'on n'en sait pas plus. Rien ne dit que Hoyle a bien compris ce que dit ce Thorne, après tout. continua Pilkington. Tu peux me le passer, s'il te plaît ? Demanda-t-il. Ewish fouilla son porte-document et sortit le numéro tout neuf du 20 avril de The Astrophysical Journal. Merci. Alors, voyons voir si Hoyle a bien compris ce que nous dit cet Américain. Tu en avais déjà entendu parler de ce Thorne, toi, avant que Jocelyn nous montre son papier de 1966 ? Non, jamais. Alors, il travaille au California Institute of Technology maintenant, apparemment. Tiens, il était à Princeton en 66, dans le premier papier. Il devait être dans l'équipe de Wheeler, j'imagine. Maintenant, à Caltech, il serait avec qui ? Son co-auteur, c'est un certain Hipser, répondit Pilkington tout en lisant le résumé. James Hipser. Hipser ? Connais pas, murmura Ewish en continuant à lire l'article de Hoyle. Quelques instants plus tard, Pilkington dit « Je crois que ce que raconte Hoyle, c'est bien ce que disent Thorne et Hipser. Hein. Écoute ça. L'interprétation par des naines blanches est plus prometteuse. Les naines blanches possèdent des périodes fondamentales entre 3 et 50 secondes, mais il pourrait exister des naines blanches avec des périodes aussi faibles que 1,3 secondes. Les pulsations d'une naine blanche peuvent être excitées par une combustion nucléaire instable dans l'enveloppe stellaire. La combustion de l'enveloppe exciterait préférentiellement les modes harmoniques, qui ont des périodes typiques de près de 1 seconde, plutôt que le mode fondamental plus lent. Eh bien, il revient complètement sur son papier de 66, on dirait. Au moins, il ne s'accroche pas à une idée. On peut lui reconnaître ça. Ça n'a pas toujours été la même chose avec Hoyle. Hein. En tout cas, je trouve bien la patte de Hoyle là-dedans. Et oui, je commentais sa lecture de Nature. Son explication pour rendre possible la période de CP0950 avec les neutrinos, j'avoue qu'elle est un peu tirée par les cheveux. Hein. Tu vois, ça c'est du Hoyle tout craché. Il te sort un truc dont on sait tout. Et voilà, ça résout tout, très simplement, et on passe à autre chose, continuait Ewish. Ouais, c'est pas faux, ma foi. Mais peut-être qu'on se trompe complètement avec l'oscillation radiale, en fait, répondit Pilkington. J'en parlais encore avec Jocelyne hier. Elle me demandait à quelle vitesse pouvait tourner une étoile à neutrons sur elle-même. Ça, j'en sais rien, ça dépend de son rayon, répliqua Ewish. Et à quoi elle pensait ? Elle parlait du papier de Ostreicher, tu sais, celui qui est dans le même numéro de Nature que celui des gars du Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics. Elle est pas mal, leur théorie à eux, hein. J'aime bien l'idée de la binaire avec l'amplification gravitationnelle. Fallait y penser, hein, répondit Ewish. Ostreicher, c'était quoi, lui ? Ah ouais, la rotation d'une naine blanche. Oui, une zone d'émission localisée sur la surface de la naine blanche qui serait en forme de cône et qu'on ne verrait que quand les ondes radio passent dans la ligne de visée. Et alors Jocelyne, elle me disait, imagine si au lieu d'une naine blanche, ce serait une étoile à neutrons qui aurait un faisceau d'émission localisé comme ça. Ouais, on peut imaginer tellement de choses. Il faudrait qu'une étoile à neutrons tourne en une seconde. Ostreicher a bien montré qu'une naine blanche pouvait le faire. Si une naine blanche peut le faire, ça doit être encore plus facile pour une étoile à neutrons. Un tour en une seconde. On oublierait complètement les oscillations radiales, alors ? Dit Ewish, interloqué. Ça serait complètement nouveau, du coup, continua Pilkington. Si une étoile à neutrons produisait une sorte de faisceau d'ondes radio très localisé à sa surface, qui partirait dans une seule direction, il tournerait à la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Et il balayerait l'espace comme un phare, l'interrompit Ewish. Oui, si la Terre se trouve par hasard dans le plan de balayage de ce faisceau, on verrait simplement des pulsations correspondant à la période de rotation de l'étoile à neutrons. Et l'amplitude des signaux pourrait être différente à chaque cycle, comme ce qu'on voit. C'est Jocelyne qui t'a raconté ça ? Demanda Ewish. C'est son idée, en partant du papier de Ostreicher. C'est intéressant, ça. Mais comment une étoile à neutrons pourrait produire un faisceau radio de ce genre ? Et est-ce que ça tourne vraiment aussi vite que ça, une étoile à neutrons ? Ça fait beaucoup de questions. Hein. On n'a qu'à demander à Hoyle, il aura la réponse, répondit Pilkington avec son petit sourire ironique. Je poserai la question à Pecker, tiens. Peut-être qu'il pourra nous éclairer là-dessus. Ça changerait pas mal de choses, hein, ça. Si l'émission n'est pas isotrope, mais focalisée, imagine, le bilan énergétique n'a plus rien à voir. Bon, j'essaierai de parler d'étoiles à neutrons avec Pecker ou d'autres demain. Ils arrivèrent à la gare du Nord avec seulement 35 minutes de retard, ce qui était un petit exploit pour le Night Train. Les deux radioastronomes choisirent de prendre un taxi au lieu d'emprunter le métro dans lequel ils craignaient de se perdre, aucune indication n'étant donnée en anglais. Ils avaient prévu d'arriver au Collège de France légèrement avant 11 h, de manière à commencer à discuter un peu avec leur hôte avant la conférence proprement dite, qui était prévue à 14 h. Ils profiteraient ensuite du week-end sous le soleil de Paris avant de reprendre le night train du dimanche soir. Le chauffeur de taxi, une cigarette jaune s'extirpant d'une moustache fournie mais moins entretenue que celle de Pilkington, ne parlait pas un mot d'anglais. John Pilkington écrivit l'adresse sur un bout de papier et on entendit « C'est parti comme en 40 !» Le soleil brillait à Paris. Le chauffeur avait allumé sa radio et paraissait très attentif à ce qui s'y disait. John Pilkington et Anthony Hewish admiraient la capitale des Froggies à travers les fenêtres de la Citroën DS en profitant de la douceur de la suspension qui les empêchait de ressentir les pavés. Après avoir emprunté le boulevard Magenta, ils avaient traversé un autre grand boulevard, puis ils avaient bifurqué à gauche dans la rue du Faubourg Saint-Martin. Après une sorte de crochet qu'ils négocièrent à force de feux rouges interminables, ils arrivèrent dans la rue Beaubourg. Et Ewish aperçut un panneau indiquant la direction Hôtel de Ville. Il fut rassuré car il se souvenait qu'il devait passer devant l'Hôtel de Ville, puis traverser la Seine pour arriver sur l'autre rive où se trouvaient les universités. Le chauffeur de taxi écoutait toujours sa radio à volume élevé, dans laquelle un reporter semblait s'égosiller en racontant des événements particulièrement intéressants, semblait-il. Il y avait beaucoup de trafic et même ce qu'on pouvait appeler un gros embouteillage. Ils mirent un temps fou pour atteindre la rue de Rivoli et l'hôtel de ville, mais ce n'était pas fini. Ewish regarda sa montre qui indiquait 10 h 30. Cela faisait déjà 3 quarts d'heure qu'ils avançaient à la vitesse d'un escargot, animal qu'on retrouvait dans les assiettes par ici. Le taxi se faufila dans une petite rue, puis tourna à gauche pour arriver sur le quai de la Seine en face d'un grand hôpital. Ils mirent encore 5 bonnes minutes pour découvrir sur leur gauche le parvis de la cathédrale Notre-Dame dans une cohue infernale d'automobiles. Apparemment, il se passait quelque chose d'anormal. Des policiers semblaient faire la circulation juste avant le pont qui enjambait le deuxième bras du fleuve. Toutes les voitures tournaient à droite dans une nuée de klaxons. Le chauffeur se tourna alors vers Ewish et Pilkington et dit « Finish! Finish! » en faisant des mouvements de moulinet avec ses mains et en montrant le pont devant lui, avec les agents de police qui interdisaient aux voitures d'y aller. Toutes les voitures devaient tourner à droite, puis encore à droite pour opérer un demi-tour sur l'île de la Cité sans pouvoir traverser sur la rive gauche. Continue à pied! Pied! À pied! Pas loin, pas loin! Disait le chauffeur de taxi en baragouinant. Ewish et Pilkington comprirent qu'il se passait quelque chose de grave. Le chauffeur ouvrit le coffre et ils récupérèrent rapidement leurs bagages, avant de payer le taxi qui se faisait copieusement klaxonner, étant donné qu'il avait laissé un espace libre d'au moins 20 mètres devant sa voiture. Les deux scientifiques marchèrent le long du parvis de Notre-Dame, puis s'engagèrent rapidement sur le pont qui était complètement vide. Tu as compris ce qui se passe ici? Demanda Ewish. Pas le moins du monde. Ils interdisent aux voitures de traverser le fleuve, mais on ne voit rien de particulier de l'autre côté. Je ne comprends pas, répondit Pilkington. Bon, le plus important, c'est qu'on puisse y aller à pied. Ce n'est plus très loin. Le Collège de France est juste derrière, là-bas. À la fin du pont, ça doit être à peu près à 350 mètres. Toujours tout droit et légèrement sur la gauche. On traverse le boulevard Saint-Germain et c'est la deuxième à gauche. Et oui, je me souvenais parfaitement de l'endroit, malgré les quelques années qui séparaient sa dernière visite à l'observatoire de la Sorbonne, qui se trouvait juste en face du Collège de France. Ils étaient maintenant arrivés sur le quai Saint-Michel et poursuivaient vers le boulevard Saint-Germain. Plus ils avançaient, plus l'atmosphère paraissait étrange, avec des policiers qui semblaient stationnés dans des petites rues adjacentes. Soudain, ils virent débouler un grand groupe de jeunes qui criaient des slogans qu'ils ne comprenaient pas. Ils arrivaient du fond de la rue qu'ils étaient en train de remonter vers la Sorbonne. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Pilkington. « J'en sais fichtre rien !» répondit Ewish.
« Libérez nos camarades ! La Sorbonne aux étudiants ! Halte à la répression ! CRSSS !»
La foule de manifestants, qui étaient visiblement des étudiants en colère, grossissait de plus en plus, plus on s'approchait de la rue des Écoles où se trouvait le Collège de France. Et il y avait aussi de plus en plus de policiers aux abords qui étaient casqués et armés de longs bâtons. De nombreux fourgons de police étaient garés tout le long du grand bâtiment de la Sorbonne sur la droite. Et oui, chez Pilkington, parvinrent enfin à arriver devant l'entrée du Collège de France. Il était 11h45. Ils avaient beaucoup de retard par rapport à ce qu'ils avaient annoncé à Pecker. Des policiers semblaient garder la porte d'entrée du Collège de France. Anthony Ewish s'avança pour passer sous le porche, mais un des policiers en faction lui fit signe qu'il ne pouvait pas entrer. « Nous avons rendez-vous avec le professeur Pecker !» dit Ewish. Le policier ne comprenait pas un mot d'anglais. Après quelques signes, il appela un autre policier qui savait dire quelques mots. Ewish expliqua avec un vocabulaire simple qu'ils devaient voir un professeur et qu'ils étaient déjà en retard. Le policier finit par les laisser entrer dans la cour de la célèbre institution. Ewish et Pilkington posèrent leurs valises dans le grand hall du Collège de France qui était entièrement vide. « Normalement, il y a quelqu'un à l'accueil, » dit Ewish. Il ne savait pas à qui s'adresser. Pilkington aperçut alors une sorte de tableau derrière le bureau qui était réservé à l'intendance et que cachait à moitié une grande plante avec de longues feuilles. Il y était écrit une liste de noms avec en face de chacun un numéro qui allait jusqu'à 5 et un nombre qui allait jusqu'à 20. Ils comprirent que cela correspondait à un numéro d'étage et un numéro de bureau. Pecker Jean-Claude, suivi de astronomie théorique, était suivi des nombres 2, 13. Ils prirent leurs bagages et montèrent l'escalier jusqu'au deuxième. Il n'y avait absolument personne dans les couloirs. Il se passait quelque chose de vraiment étrange par ici. Ils aperçurent de loin dans le couloir un papier qui était collé sur la porte numéro 13. C'était une grosse enveloppe collée au ruban adhésif. Sur sa face était écrit « À l'attention des professeurs Ewish et Pilkington ». À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite en parfait anglais et ce qui ressemblait à deux billets de train. « Chers confrères, je suis profondément désolé de la situation que vous devez rencontrer. Les universités parisiennes sont depuis quelques jours soumises à de très grosses perturbations d'étudiants avec des occupations et des grèves. » La Sorbonne est entièrement occupée depuis ce matin et la situation est très tendue dans tout le quartier latin. Le rectorat de l'université nous a ordonné de remettre à plus tard toutes les rencontres qui n'étaient pas primordiales et la conférence d'aujourd'hui fait malheureusement partie de ces événements secondaires aux yeux des instances universitaires, bien entendu. Tout le personnel du collège qui travaillait encore a également été invité à évacuer les lieux pour que la police puisse faire son travail dans le secteur de la Sorbonne. Je n'ai pas pu vous joindre hier, hélas, alors que vous deviez être sur le chemin. Tout s'est décidé tôt ce matin, la situation étant très mouvante. Je vous propose donc de déporter notre conférence dans l'espace et dans le temps, en dehors de Paris, afin que nous puissions discuter sereinement, sans perturbation extérieure. Je vous attends dans mon observatoire à Nice, l'Observatoire de Côte d'Azur, ce lundi à 9h. Vous trouverez 6 juin 2 billets aller-retour. avec toutes mes excuses. À très bientôt, Jean-Claude Péquer. » Une fois que Hewish eut fini de lire la lettre, ils se regardèrent avec un air interrogateur. « Ça alors ?» fit Pilkington. « Eh bien, je vois que deux solutions, mon cher. Soit nous rentrons ce soir à Cambridge, soit nous allons à Nice. Tu aurais une préférence ? À vrai dire, j'aurais bien aimé passer un peu de temps à Paris. Mais bon, je vois bien qu'il se passe des choses peu sympathiques par ici. Cambridge ou Nice ? Disons Nice ? Nice, sûr ? Oui, Nice. Ok, Nice. C'est bien Nice, dit Hewish. Je ne connais pas du tout la Côte d'Azur. Moi non plus. C'est loin de Paris ? Je n'en sais fichtre rien. Mais je crois que c'est assez loin, en effet, vu qu'il y a la mer Méditerranée. Eh, effectivement. Que disent les billets de train ? Demanda Pilkington. Et oui, je sortis les billets de l'enveloppe. C'est en français, mais je reconnais le mot départ et le mot arrivée. Au nom de Dieu ! Oui ? Le départ est ce soir à 18h52. À la gare d'Austerlitz, et l'arrivée à Nice est demain à 9h15. Ah oui, quand même. C'est à peine plus long que le night train, finalement. Oh, il n'y a pas un canal à traverser. Toujours partant, mon cher Pilkington ? Allons-y. Les deux comparses quittèrent rapidement les lieux et refirent dans l'autre sens le chemin qu'ils venaient de faire 20 minutes plus tôt. Le nombre de manifestants avait encore grossi et les slogans étaient à peu près les mêmes. Hewish et Pilkington pressèrent le pas pour arriver le plus vite possible dans l'île de la Cité. Avant de monter dans un taxi devant Notre-Dame, ils firent quand même un petit détour pour admirer l'intérieur du monument historique, histoire de dire qu'ils avaient visité Paris.